Il y a des tâches qu'on n'aime pas vraiment entrevoir quand l'été, le printemps se pointe le bout du nez. Je sais pas vous autres, mais moi, tout ce qui touche au paysagement, là, oh, ça me prend du bon monde. Ça me prend des gens à qui je peux avoir confiance, à qui je peux laisser la job parce que, un, j'ai pas la vision, puis j'ai pas le talent. Puis deux, ben honnêtement, j'ai un petit côté lâche. Puis je pense que je suis loin d'être seule à l'avoir. Option paysagiste. Marquez ça à l'agenda, prenez-vous une note. Méchante belle gang. Option paysagiste, c'est le spécialiste en aménagement paysager à Québec et Lévis. Une équipe passionnée qui transforme votre terrain en véritable cour de rêve. C'est le fun quand tu peux prendre une bière chez vous puis que tu es content de ce que ça donne, que tu es fier de pouvoir montrer ça à tes voisins. Un service qui est 100% clé en main, de la première idée jusqu'à la dernière pierre. Terrassement, pavé, piscine, design, ils s'occupent littéralement de tout. Option paysagiste. Fait que ça fait 3 ans que tu regardes ton entrée, tu n'es plus capable. Ta cour arrière, zéro effet wow, tu aimerais ça que ça change. Tu ne sais pas par où commencer, bien justement, fais affaire avec eux. Ils ont une technologie 3D qui fait que tu peux visualiser ton projet avant même qu'il commence. Ça, c'est mon autre problème. Quand je disais que j'avais pas de vision, là, ben eux autres peuvent t'aider avec ça. Des ajustements faciles, une vision claire du résultat final, zéro mauvaise surprise. Imagine arriver chez vous puis être fier à chaque fois. De la conception à la réalisation, c'est optionpaysagiste.ca.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de...
C'est Gravel de retour qui est installé jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot. Denis qui est absent aujourd'hui, qui revient demain. Véronique Bergeron qui est autour de la table, prépare ses nouvelles. On fait ça dans les prochaines minutes. Antonin Iaccarini qui est avec nous également jusqu'à 18h. Peut-être commencer par vous faire une petite circulation parce que ça s'installe pas mal sur les routes. Présentement, si vous êtes sur la capitale, voyez-vous des bons problèmes direction est dans le coin de Robert Bourassa. Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne surtout que ça se passe. Robert Bourassa direction nord, entre, je vous dirais, Charest et la capitale, assez difficile de circuler. Charest direction est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa que ça se passe. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts, il y a un bon ralentissement à prévoir. D'ailleurs, il semble y avoir un accident direction nord sur Henri IV à la hauteur de Chemin Sainte-Foy, ce qui fait en sorte que ça crée un bon ralentissement entre Boulevard Laurier et Chemin Sainte-Foy. Sur Duplessis Sud, ça se passe, je vous dirais, de Chemin Sainte-Foy au pont La Porte, un peu plus haut dans le coin de Shannon, de devant la base militaire, route de la Bravoure dans les deux directions. Tu es très bien installé. Route de la Bravoure, pas route de la Bravoure, par exemple, mais route de Fossambeau, pas vous dire n'importe quoi. Entre route des Érables et de la Jacques-Cartier, c'est le ralentissement habituel qui est installé également. Et pour la rive sud, on a la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles, d'ailleurs, Chemin des Îles, hauteur de la 20, difficile également. Il y a aussi un ralentissement depuis la semaine passée qui est assez bien installé, là, qui est dans le coin de la route du président Kennedy. Si vous êtes sur Guillaume Couture, c'est des travaux qu'il y a dans ce coin-là. Sachez-le également. Et pour ceux qui doivent prendre les ponts tard en soirée, c'était le cas hier, un peu plus tôt. Là, un peu plus tard aujourd'hui, le pont de Québec qui va être fermé dans les deux directions à partir de 21h jusqu'à 5h30 demain matin. Je regarde à l'extérieur, toujours pas de soleil. Le ciel qui est bien ennuagé. On est à 7 degrés présentement à Québec ce soir et cette nuit. C'est autour de 4 pluies ou bruines. C'est ce qui nous attend. Pour ce qui est de demain, on sera à 9 avec 40 % de possibilité d'averse. Le reste de la semaine, pas trop beau non plus. On est vraiment... Là, c'est le printemps. Il est arrivé pour vrai. On chialait. Il est là. 14 degrés jeudi avec de la pluie. Ce sera 13 vendredi avec des nuages un peu partout. Et là, voyez-vous, Environnement Canada se ravise. Là. Samedi, 13 degrés. Ce serait totalement ensoleillé.
Yay!
Fait qu'on se croise les doigts. Ce serait les seuls rayons qu'on aurait, je vous dirais, d'ici lundi prochain. Fait qu'on va le prendre. Je vous l'ai dit, vous êtes dans Gravel en retour. Vous avez envie de nous rejoindre. C'est le 418-971-1021 par texto. 780-1021, c'est le téléphone. Vous ne vous gênez pas si vous avez envie de lâcher un coup de fil. La façon la plus facile de nous rejoindre, téléchargez l'application. Il y a le courriel, le numéro de téléphone, le numéro de texto. Tout est là-dessus. C'est centralisé, ça va pas mal mieux. Et il y a nos différentes plateformes, médias sociaux également. C'est pas la plus grosse journée d'actualité.
C'est plus vrai.
Ah oui, ça a déboulé dans les derniers... Ben, écoute, je suis contente. Vas-y donc.
Il y a du nouveau à jaser. D'abord, on aura au fédéral une mise à jour économique qui sera présentée le 28 avril. Puis à moins que je me trompe, c'est un an jour pour jour après l'élection officielle de Mark Carney.
Quelle date?
Le 28 avril.
Oui!
C'est carrément ça, hein? Fait que j'ai l'impression qu'on y va pour le symbole, considérant que depuis hier, le parti est maintenant majoritaire parce qu'on a atteint... on a dépassé, en fait, le chiffre magique qui leur donnait la majorité. On est à 2 députés au-dessus. On est à 174 députés avec les 3 partiels qui ont eu lieu hier. Donc, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qui va déposer son énoncé économique. Ça a été confirmé un petit peu plus tôt cet après-midi. D'ailleurs, on estime que malgré l'incertitude, le Canada va savoir tirer son épingle du jeu cette année. Puis tu sais, encore une fois, c'est la même affaire. L'incertitude vient principalement du Sud. Ça vient des décisions de Donald Trump. L'année passée, c'était les décisions qui nous touchaient directement avec les tarifs, certains qui ont toujours cours à ce moment-ci. Mais là, l'incertitude vient aussi du fait que le prix du pétrole a tellement augmenté. D'ailleurs, je vous répète que le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il y aurait suspension de la taxe d'assise sur l'essence et le diesel à partir de lundi prochain, et ce jusqu'à la fête du travail le 6 septembre.
Pourquoi il ne suspend pas tout court? Hein?
Parce que c'est des revenus pour le gouvernement fédéral qui sont très importants, puis qu'actuellement, le prix de l'essence est tellement grand.
C'est pas celle-là qu'on est seul à avoir?
Non. Non, ça, c'est fédéral,
non?
Celle-là.
Okay, okay, okay.
C'est pas comme la taxe qui est du côté du Québec. Puis ça, d'ailleurs, on s'en reparlera. Là, c'est vraiment la taxe d'assise fédérale. Fait que d'un océan à l'autre, c'est la taxe carbone que le gouvernement fédéral avait retirée. Puis qu'au Québec, nous, on a notre propre programme à côté est différent. Fait que ça avait permis, quand la décision avait été prise au fédéral, de diminuer. Mais là, on est à un autre niveau. Ce que ça devrait avoir comme impact concrètement à la pompe, c'est que ça permettra aux Canadiens d'économiser un 10 cents sur le litre d'essence ordinaire et un 4 cents sur le litre de diesel. Dire qu'à une certaine époque, quand vous rouliez au diesel, vous étiez ceux qui économisiez. Puis là, maintenant, tu regardes combien ça coûte, ça n'a pas de maudit bon sens. Ensuite de ça, du côté du Québec, clairement, Christine Fréchette a choisi qui était son homme de confiance pour ce qui est des finances. Elle a rencontré Éric Girard et lui a donné le mandat de lui soumettre des propositions pour réduire la pression sur le portefeuille des Québécois. Elle l'avait dit dans une série d'entrevues, elle veut agir rapidement, faire des annonces concrètes qui vont avoir un impact le plus vite possible. Elle lui a d'abord demandé d'identifier la voie la plus efficace pour retirer la taxe de vente du Québec sur une série de produits de consommation du quotidien et d'épicerie. C'est pas quelque chose qui a jamais été fait auparavant, même que Justin Trudeau avait joué un peu avec ça, souvenez-vous, il y a deux Noëls, là, avant de finir par s'en aller, là. Fait qu'on avait sélectionné des types de produits qui pouvaient être considérés comme essentiels ou pas, c'était quand même assez large. Puis on avait donné un break pendant une certaine période. Elle a aussi demandé à Éric Girard de lui proposer un plan pour retourner les revenus supplémentaires de l'État liés à la hausse du coût de l'essence due à la guerre au Moyen-Orient. Puis ça, il y en a plusieurs qui pensent que ça va toucher le prix de l'immatriculation, qu'on pourrait diminuer encore une fois, alors que avec tout ce qui s'est passé avec sa clique, le gouffre financier de la SAC est somme toute assez important, fait qu'on s'attendait plus à ce qu'on le garde comme ça, mais ça paraît toujours bien de diminuer l'immatriculation, c'est l'utilisateur payeur-ish.
C'est directement dans nos poches. Fait que...
C'est effectivement directement dans nos poches une fois par année. Et son dernier point, je vous lis son post qu'elle a fait sur les médias sociaux. « Finalement, dans toutes les régions du Québec, vous me l'avez dit, votre priorité, ce n'est pas la tenue d'un référendum. C'est la protection de votre portefeuille, jusque-là on s'entend, et de l'identité québécoise. »
Ouais.
« Dans un moment où tout coûte plus cher, notre responsabilité est d'atténuer cette pression sur le portefeuille des Québécois, et c'est ce qu'on va faire rapidement. » Pourquoi l'identité québécoise puis le portefeuille sont dans le même point?
Qu'est-ce qu'on fait ici, là?
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à la fameuse Constitution du Québec. Moi, j'ai l'impression qu'elle essaie de plier tout ça, là.
C'est un enjeu qui est toujours important pour la CAQ. C'est un enjeu qui pogne politiquement aussi. C'est juste que là, il est comme inséré, garoché dans un grand pause qui parle d'économie. Fait que c'est comme si c'était un
Je
peu désincarné.
Je comprends pas. Ouais. C'est comme s'il avait voulu dire à un ministre qui l'a peut-être pas appuyé qu'elle va être là pour lui.
Ouais, moi, ce que je pense, c'est qu'elle essaie de plugger le plus souvent possible économie-identité, économie-identité. Fait que là, elle parle pas du tout d'identité, mais elle voulait surtout pas parler d'économie sans plugger le mot identité.
Fait qu'elle a glissé identité au travers.
C'est juste que tu fais « hein ».
C'est comme si tu fais ta liste d'épicerie et tu mets « vis » au travers.
Ouais, c'est ça.
Juste pour être sûr de pas oublier à un moment donné.
Mais c'est parce que tu veux pas que les « vis » se sentent exclus. Fait que là, tu le dis rien que pour le dire, mais ça n'a aucun rapport.
Ça fait un autre genre de vice,
fait
par
que
exemple.
C'est une stratégie de communication, simplement, finalement.
Puis, j'appellerais pas ça une stratégie, mais c'est de la communication.
À l'intérieur de ça, on parle pas de loyer, alors que ce qui avait commencé à circuler aussi, je voyais un texte du Journal de Québec passer, là, la possibilité de peut-être rembourser la taxe de bienvenue aux premiers acheteurs, donc ceux qui tentent d'accéder au marché de la propriété pour la première fois. Mais là, reste à voir si est-ce qu'on attend qu'ils aient payé cette taxe-là du côté des villes et on rembourse les villes, ou est-ce qu'on le fait autrement. Puis ça encore là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être très, très long à mettre en place. Puis là, tu sais, de voir qu'Éric Girard est mêlé là-dedans, on se doute ça va être quoi la suite des choses pour lui. Je pense qu'on va le garder en poste au moment où on va présenter un cabinet.
Absolument.
Là. Je vois pas personne d'autre qui pourrait prendre cette, cette place-là.
Ben, Monsieur Girard était venu nous voir à On en jase le midi, puis on lui avait posé la question, est-ce qu'il y a d'autres postes qui pourraient l'intéresser? Puis il avait dit non.
C'est assez clair.
Je
hein?
veux être ministre des Finances, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que là, une fois qu'il a appuyé Christine Fréchette...
Non, tu le vois pas, genre, mais santé, j'ai ça, services sociaux...
Moi, j'étais comme agriculture, culture, il était comme non, il voulait rien
pas
savoir.
Pas d'intérêt. Puis là, j'ai une question pour Antonine Iacarini qui est avec nous autres aujourd'hui. Quel
oui,
bon
allô.
Timing. C'est un communiqué qui est rentré dans les dernières minutes. Vous dire en passant que Christine Fréchette est en rencontre avec François Legault, il y aura une opération média qui va se faire à 16h30 pour prendre les belles petites photos de la mairesse, de la première ministre désignée et du premier ministre sortant. Vous allez voir pourquoi j'ai fait un lapsus. C'est une convocation de la Ville de Québec pour une cérémonie d'investiture de Christine Fréchette à titre de mairesse honoraire désignée de la capitale nationale. Hein? Que c'est ça mange en hiver? Antonine.
Vous saviez pas que Christine Fréchette était mairesse?
Je comprends rien.
Je suis un peu mêlée aussi pour être honnête.
C'est vraiment, c'est de la petite poutine pour certains, mais c'est très symbolique pour d'autres. C'est qu'on a une loi qui s'appelle la loi sur la capitale nationale.
Oui.
Et ça fait en sorte que le premier ministre ou la première ministre du Québec est mairesse, maire, honoraire, peu importe, de façon automatique. Ça a comme but de sensibiliser le premier ministre, la première ministre à l'importance de la Ville de Québec.
Fait
aussi.
Qu'il ne l'avait pas fait avec François Legault.
C'est ça j'allais dire. Parce
ou il n'avait pas compris la signification.
Les communications se sont faites à Montréal une couple de fois. Là.
En fait, vous avez absolument raison de dire que le gouvernement a été... en infraction par rapport à sa propre loi
à plusieurs reprises.
Pendant toutes les années de la CAQ. Là. Parce que des rencontres importantes... Tu sais, des rencontres économiques, Montréal, c'est une métropole. C'est bien normal.
Ça peut arriver, ça peut se justifier.
Ça peut se justifier. Une rencontre politique, c'est censé...
Aussi.
Diplomatique, c'est censé être à Québec. Puis je sais que le monde de Montréal dit « Franchement, on s'en fout. » Ben non, on s'en fout pas. C'est une capitale, c'est ça le rôle de Québec. Et le premier ministre aurait dû le respecter. Est-ce que des fois, il y a un problème d'horaire? Bon, je sais que la première rencontre avec M. Carney, M. Legault s'était rencontré à Montréal. M. Carney s'en allait à l'étranger. OK, là, on n'est pas débiles.
Puis ça aurait été correct s'il n'y avait pas eu autant de laxisme ben, dans les années qui ont précédé cette rencontre-là non, de la part du gouvernement Legault.
Ils s'en sont foutus complètement.
C'est quand même particulier, c'est qu'elle sera assermentée comme mairesse honoraire désignée avant d'être assermentée comme première ministre.
Ah, mais tu vois.
Parce que la rencontre se fait demain, la cérémonie d'investiture est à 10h45, puis je pense que son assermentation est censée se faire plus tard dans la journée de demain.
Est-ce que tu penses que ça va faire en sorte que Christine Fréchette va être très, très, très sensibilisée, sensible,
en fait,
investie par la région de la Capitale-Nationale?
Pas à cause de ça. Mais oui, parce que la CAQ actuellement se bat pour essayer de dire que c'est aussi un parti de région. C'est pas pour rien que son premier bain de foule a été fait non pas dans la ville qu'elle a habitée dans ses années de vie adulte, mais plutôt sa région d'origine dans la Mauricie du secteur du côté de Trois-Rivières. Elle a répété souvent pendant sa campagne à la chefferie qu'elle comprenait l'importance des régions. Fait que j'ai l'impression que juste pour le narratif, que le narratif tienne... La capitale nationale, pour les prochains mois, va garder sa place.
Je suis cynique, hein? Mais ils disent tous
je sais bien.
Que c'est important, les régions. Ils disent tous.
Puis après ça, quand ils sont au pouvoir, ben.
Écoute, il y a juste QS là, qui ne disent pas beaucoup ça. Là.
Non, ils sont encore en train de se démêler entre eux.
C'est ça.
Dans les autres petites nouvelles, du côté de Lévis, il y a eu une bonne annonce de la part du maire Stephen Blainey. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé depuis les histoires d'eau usée. Là. C'était quand même assez relax. En fait, on a dévoilé les investissements qui vont se faire en 2026 pour quelque chose qui a l'air vraiment pas sexy, mais qu'on a tendance à oublier quand on gère une ville. Les chaussées, les trottoirs... et les bordures. En fait, on nous a dévoilé aujourd'hui le montant qui serait consacré à la réfection. C'est 24,5 millions. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 4 fois plus que l'année passée. C'était clairement un champ de dépenses qui avait été sous-financé par l'administration précédente, mais faites-vous-en pas... Stephen Blainey ne tape pas sur les doigts de Gilles Laulier. Il semble y avoir une bonne proximité pour des gars qui n'étaient pas dans le même parti. Mais oui, on a entendu que le 6 millions qui avait été budgété l'année passée était en bas de ce qui était nécessaire. Donc, la part du Lion va toucher essentiellement des secteurs qui sont dans des zones scolaires. Là, c'est des critères techniques qui ont déterminé ces choix-là. Et je vous rappelle que si vous êtes un abonné un habitué de l'écocentre de Val-Bélair. On va le fermer temporairement. En fait, un bon temporaire à partir du 20 avril jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est des travaux majeurs de modernisation qui doivent s'y tenir. C'est le premier écocentre de cette génération-là qui a été construit il y a près de 30 ans. Val-Bélair a explosé depuis. Les manières de faire ont changé, les accès ont changé aussi. Fait que pour s'adapter à l'achalandage actuel puis aux nouvelles manières de faire, bien, on va se lancer dans ces travaux-là. Fait que ceux qui sont habitués d'aller à Val-Bélair, vous allez être rapatriés dans d'autres éco-centres, soit celui de L'Étrière, celui du secteur des Rivières, de Jean-Talon ou encore de Beauport.
Si vous êtes sur Henri IV-Nord en ce moment, à la hauteur du chemin Sainte-Foy, la voie de droite est bloquée. Il y a un accident. Les policiers qui sont arrivés sur place. Vous avez des détails? 88-971-1021. Véro, tu l'as dit tantôt, tant qu'à avoir Antonine Yacarini avec nous, il faut en profiter un peu. Hein? Analyste politique, elle est simplement co-animatrice, j'ai envie de dire, à 16 heures, parce que sinon, normalement... normalement.
C'est un loisir. C'est,
effectivement, normalement, ben c'est pourquoi oui. Tu viens nous voir beaucoup, c'est pour jaser de politique, pour analyser ce qui se passe. Puis là, ben, il y a quand même un point à faire parce que élection partielle hier, Carney a sa majorité, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être juste nous faire un résumé, parce que là, il y avait deux comtés en Ontario, un comté au Québec.
Oui, donc en Ontario, Scarborough Sud-Ouest. Est-ce que je suis la seule qui entend une chanson de Simon & Garfunkel à chaque fois?
Scarborough Fair.
Je la chanterai pas, parce que je veux pas faire une claque de moi-même. Et University Rosedale. Ah, bravo, Véro.
J'en chante pas, je la fredonne, là, mais bon.
OK. Revenons à nos moutons qui avaient été laissés vacants par deux libéraux, donc Bill Blair et Chrystia Freeland. Donc, c'était deux comtés libéraux déjà en Ontario qui sont complètement acquis. Là. C'est des châteaux forts libéraux. Mais il y avait Terrebonne aussi, parce qu'on se rappelle que dans l'élection de Terrebonne, il y avait eu des irrégularités dans la poste, le vote postal. Il y avait notamment une fille là, qui était sortie dans les médias pour dire « Moi, mon vote m'a été retourné dans ma boîte aux lettres. » Donc, la Cour suprême avait décrété que cette élection-là était annulée. Donc, c'est hier que ces trois élections partielles avaient eu lieu. Le Parti libéral a remporté les trois. En Ontario, comme je vous disais, c'était sans surprise. Mais Terrebonne, on s'est couché tard quand même, faut le dire. D'ailleurs, j'écoutais les émissions spéciales puis il commençait à manquer un peu d'idées de quoi dire. Là. C'était quand même long.
Tu faisais du temps un petit peu. Là.
Ben, il disait comme quasiment, il avouait là, qu'il était en train de faire du temps, que c'était très, très long. Et finalement, la libérale Tatiana Auguste, qui avait gagné, entre guillemets, par un vote, finalement, a eu une plus grande victoire que la dernière fois, là, avec 730 votes de plus que la candidate du Bloc québécois, Nathalie Sinclair, qui a pris un peu de temps, je dois dire, avant de s'annoncer. Quand la Cour suprême a dit « ça marche pas, cette élection-là, on la reprend », Tatiana Auguste, à peu près à journée même, a recommencé à faire du porte-à-porte.
Oui, mais elle, c'est normal, elle était en poste en tant que députée. L'autre, j'imagine qu'elle avait refait sa vie.
Bien, exactement. Fait que là, elle avait dit « oui, laissez-moi quelques jours », et elle a annoncé finalement, mais déjà, les libéraux, là, la machine qu'ils ont mis là-dedans. Tu vois, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Mark Carney est venu plein de fois. Vraiment la grosse machine électorale.
Ça a été dénoncé par le Bloc hier puis par leur candidate en disant que là, ça n'avait pas de bon sens la manière dont les choses avaient été faites. Mais d'un autre côté, c'est ça la joute politique. Là.
Oui, c'est la game. Ils n'ont rien fait d'illégal ou de mal, mais il y avait une grosse machine politique. Mais au-delà...
Puis il n'y avait pas besoin de Terrebonne, là.
Bon, alors voilà. Est-ce que hier, c'est vraiment le moment où M. Carney est allé chercher sa majorité ou pas? Là, je veux vraiment vous faire réfléchir à l'envers du décor.
Parce que c'est l'impression que ça donne vite
ça de même. Et c'est l'objectif. Parce que hier, tout le monde est en émission spéciale. Là, il y a comme un aspect qui a l'air bien démocratique. Ils vont chercher des électeurs. Puis là, les gens, ils votent et tout ça. Je m'excuse, là. Mais c'est pas ça qui a fait la différence. C'était trois comtés libéraux. Ça reste libéral. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a eu des transfuges qui arrivaient du Parti conservateur et une qui arrivait du NPD, qui sont venus gonfler les rangs. Donc, ils se sont organisés pour que le député numéro 173 qui donnait la majorité, ce soit le soir des partiels. Mais en
Parce
fait,
ça paraît mieux.
Ça paraît mieux, on va se dire les vraies choses. Donc, oui, maintenant, Carney, Mark Carney et ses comparses ont un gouvernement majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir la majorité dans les différents comités. Il ne peut pas avoir d'obstruction. Il a moins besoin de négocier pour faire passer ses projets de loi. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas une épée de Damoclès, là, que des élections pourraient arriver à tout instant. Cela dit, ça tentait à personne de partir en élection. Fait que les partis d'opposition n'étaient pas très...
Personne n'était en bonne position pour ça. Là.
Non, de toute façon. Ceux qui étaient en meilleure position pour partir en élection, c'était les libéraux. Mais là, ils ont une garantie, ils ont une assurance. On a au moins trois ans devant nous où il n'y aura pas d'élection. Et c'était vraiment le message des libéraux hier. C'était majorité égale stabilité.
C'est une belle opération de communication, mettons. Là.
Ah, vraiment. Puis les libéraux, bon, il faut le dire, McCarney, très populaire. Sondage après sondage après sondage, ça va très bien. Et même s'il était minoritaire, il réussissait quand même à faire beaucoup de choses. Il gouverne un peu en majoritaire depuis le début.
Oui, mais ils savent que personne ne va s'opposer.
Il sait très bien que M. Poilievre
n'est pas...
Pourquoi
ça va bien de même? Hein? C'est-tu le moment où il est rentré, où on avait tellement d'incertitudes par rapport à Trump?
C'est-tu la faiblesse des oppositions?
Oui. Toutes ces réponses sont bonnes, vos hypothèses sont excellentes.
Fait qu'il est juste chanceux, lui.
En fait, la politique, c'est un mélange de compétences, de talents, de sens politique, mais aussi de contexte. Il faut que tu sois la bonne personne au bon moment. Tu sais, il y a quelques années, je vous aurais dit que ce petit monsieur-là, là, un peu drabe, allait vraiment être l'homme politique le plus populaire de la décennie. Là. Je pense pas que vous m'auriez cru. Mais effectivement, le timing, le retour de Trump, avoir en face de lui un chef de l'opposition conservateur avec le style qu'il a, Pierre Poilievre, il a un style particulier. Et quand on regarde la situation avec les États-Unis, tu regardes un Mark Carney puis un Pierre Poilievre, je m'excuse, là, mais Pierre Poilievre, il n'a pas l'air de l'homme de la situation. Mm. Il travaille fort. Je trouve qu'il y a eu une bonne séquence en début d'année, là, à part ses transfuges. Là, écoute, c'est épouvantable pour
lui. Mais ce n'est pas l'homme rassurant. Là.
Non, puis M. Carney, avec ses compétences et tout ça, ça semble résonner auprès de la population. Donc,
il semble bien être perçu à l'international aussi. J'ai l'impression que ça... Étrangement, ça rassure les gens dans une situation où la géopolitique est tellement fuckée.
Tu sais, dans le fond, le projet que M. Carney propose, puis j'arrête pas de dire M. Carney, puis moi, les libéraux, parce que c'est quand même un petit peu, je vais dire un gros mot, là, mais c'est un peu un culte de la personnalité. Là.
Ah,
c'est Mark Carney, là, c'est pas les libéraux.
C'est parce qu'il y a tellement de libéraux qui étaient sous Justin Trudeau qui ont été reconduits là, puis personne ne voulait d'eux autres. Là.
Pas en tout.
Je suis désolée, il n'y avait pas juste Justin Trudeau qu'on n'était plus capable de blairer, il y avait un tas de ministres puis de députés.
Toute la gang.
Puis eux autres, là, ils peuvent dire merci. Là, l'Esprit Saint est descendu sur eux autres. Là. Il y a une transcendance.
Puis on s'entend, ils sont pas en train de mettre en application le même projet de société que sous Justin Trudeau. Mais bon,
le Parti libéral?
Bon,
les transfuges et compagnie.
Ben, t'as absolument raison. Le projet de Mark Carney, c'est de transformer l'économie canadienne, la rendre plus résiliente, moins dépendante des États-Unis, puis aller forger aussi des nouvelles alliances à l'international. Et il a une crédibilité en la matière et les gens y croient pour l'instant. Alors que quand on se retourne vers les adversaires, tu essaies d'imaginer Pierre Poilievre faire la même chose ou le NPD. Là, tu sais, je veux dire, les gens le voient pas. Donc, c'est ça le momentum qu'il y a autour de lui. Mais en même temps, les transfuges, puis c'est là que je veux aller. Là, ça va bien. Là. Les libéraux sont contents, ils sont morts de rire. Puis quand on regarde la situation politique, tu te dis, ils vont être au pouvoir pour 10 ans, là, ces gens-là. Là. Surtout quand tu regardes la crise qui est en train de se préparer au Parti conservateur, puis le leadership de Pierre Poilievre qui est très chambranlant. Tu te dis, mon Dieu, ils sont partis, ils sont morts de rire. Mais attention, les transfuges qui ont été accueillis, les gens n'aiment pas ça, premièrement, au niveau démocratique. Les Canadiens ont donné un gouvernement minoritaire à Mark Carney. Il est allé chercher un gouvernement majoritaire par des tractations en allant chercher des transfuges. Généralement, les transfuges, quand ils se représentent pour un autre parti, ne se font pas élire. Okay? Ça n'arrive pratiquement jamais. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des « blue liberals » ou des « red Tories ». Donc, c'est des gens qui sont à droite ou à gauche de leurs différents partis.
L'équivalent d'une zone grise. Là.
C'est une zone grise, puis il y en a pour qui ça fait du sens de changer de parti, puis qu'au niveau idéologique, on est comme « OK, ça passe ». Mais Marilyn Gladue, la dernière transfuge qu'on a vue, c'est pas une « red Tory ». C'est une conservatrice contre l'avortement, contre les thérapies de conversion. Elle a fessé très fort sur le gouvernement libéral avant d'annoncer sa défection.
Qu'est-ce qu'elle fait là, hein?
Ben, je ne sais pas c'est quoi sa motivation personnelle, mais moi, imaginez Stephen Guilbeault et ce madame-là assis à la même table, il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
Mais elle, tu sais, mettons, elle se trouve à avoir 3 ans devant elle, encore, comme députée de son secteur avant qu'on retourne en élection. Si, mettons, elle est bénéfique pour son comté en étant rouge. Est-ce qu'elle vient de s'acheter une réélection supplémentaire?
Écoute, c'est dans 3 ans.
Elle a
le luxe du temps. Par contre...
Mais ça change pas tes valeurs de base?
Ben, je vais vous faire une prédiction. À un moment donné, là, les gens qui pensent plein d'affaires différentes autour d'une table, là, quand ça se met à se détricoter, là, parce que quand ça va bien, tout va bien. Tout le monde avait des couleuvres pour gagner.
C'est vrai.
Mais quand ça se met à aller moins bien, là, le monde dit « Ah, c'est parce qu'il faut partir à gauche. » Les autres vont dire « Non, il faut partir à droite. Il faut retourner à la base. Non, il faut aller élargir notre électorat. » Et là, ces gens-là qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas le socle de valeurs communes, ça ne marche pas. Donc, moi, je pense qu'en politique, tu veux gagner la journée, puis après ça, tu t'organises plus tard. Mais je pense qu'ils s'achètent des problèmes quand même.
Y crois-tu à d'autres transfuges possibles?
Oui. Parce qu'il y a pas mal de monde autour de la table des conservateurs...
Qui sont tannés.
Qui sont tannés. Par contre, maintenant que M. Cogna a sa majorité, la défection a moins de valeur. Parce que là, il faut le dire, ceux qui sont partis là, depuis le mois de décembre...
C'est qu'ils acceptaient juste pour ça, finalement.
Absolument. Ben oui, là, c'est pas parce qu'ils trouvaient donc extraordinaire.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui trouve ça. Moi, ce que je lis depuis ce matin, c'est à quel point les gens trouvent ça injuste. T'sais.
Mais le texto qui est rentré, il n'est pas allé chercher des choix de première ronde non plus. T'sais.
Non, puis il s'en fout, parce que c'est juste des numéros. Là. Il y a juste besoin d'atteindre le chiffre pour avoir la majorité. Et il leur a donné des petits nananes en échange, notamment Michael Ma, qui a accompagné M. Carney dans la mission en Chine. Il a fait deux parties de Noël aussi. Là. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais il est allé au party des conservateurs. Après ça, il a fait défection.
Puis il n'avait toujours pas payé son party de Noël des conservateurs.
Il n'a toujours pas remboursé les conservateurs.
C'est très cocasse.
C'est très cocasse. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, ça ne fait plus de sens au niveau du parti politique. C'est pour ça que je trouve qu'on est dans un culte un peu de la personnalité. Ce n'est pas les valeurs, c'est comme on suit Mark Carney.
Mmh. Est-ce que Carney est conservateur dans sa manière de gérer
c'est
puis
un
ses
blue
projets.
Liberal, je crois. Et c'est dans l'air du temps. Et il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, effectivement. Puis on l'a vu dans Terrebonne, les gens, ils n'ont pas puni Mark Carney pour ses transfuges pour l'instant.
Mais est-ce qu'ils n'auront pas le choix de se repositionner à un moment donné, t'sais, qu'on comprenne exactement qui c'est quoi, là, de bord, le Parti libéral, là, où est-ce qu'on s'en va? Là? Moi, si je veux me reconnaître dans ce parti-là, c'est quoi les valeurs, les principes de base? Il y a tout ça. Là.
Absolument, mais c'est une bonne question. Mais tu sais, les libéraux, autant au niveau provincial que fédéral, c'est pas des partis qui sont très idéologiques. Tu sais, le Parti conservateur, il y a une base militante idéologique. D'ailleurs, ça cause toutes sortes de problématiques parce que quand tu écoutes leur congrès, des fois, c'est un peu funky. Là.
En fait, la période où les libéraux ont été les plus idéologiques, c'est sous Justin Trudeau, puis ça n'a pas bien été.
Exactement. C'est l'idéologie woke, vous me permettez l'expression. Alors que là, on est vraiment dans un projet qui est différent. Et on a l'impression que pour M. Carney, le Parti libéral, c'est juste un véhicule. Pour lui, puis pour son projet, finalement. Mais mettons que le Parti conservateur n'était pas le parti populiste qui est rendu ce qu'il est maintenant, un peu contrôlé par l'Ouest, là. Ça aurait pu être le Parti conservateur, le vieux Parti conservateur qui aurait été son véhicule.
Anto, au retour de la pause, j'ai l'impression que tu vas sûrement avoir quelques questions parce qu'on reste dans tout ce qui touche la politique, mais on s'en va à l'international.
Hey, c'est mon dada ces temps-ci, la Hongrie.
On va... Ben, écoute, tu vois, c'est drôle parce que moi, avec tout ce qui se passe en Iran, puis Trump, puis ici, puis ça, là, j'ai zéro porté attention à la Hongrie, puis je pense que ça va être intéressant. On s'en va de ce côté-là parce que dimanche, le conservateur pro-européen Peter Maguire a remporté les élections avec une bonne majorité, les deux tiers, ce qui lui laisse...
Comment tu l'as appelé?
Peter Maguire.
Un conservateur pro-européen, c'est ça?
Oui, exact.
Excuse-moi.
Bref, il a remporté les élections avec une majorité des deux tiers, ce qui lui laisse la possibilité de défaire le système qui a été installé par Viktor Orban dans les 16 dernières années de pouvoir. Et pour comprendre tout ce qui se passe de ce côté-là, puis l'implication de la jeunesse, la mobilisation des gens et compagnie, on va parler avec Éric Sauvé, qui est vétéran, qui est consultant en défense et sécurité. Si vous avez des questions, 88-971-1021, texto, on vient.
Gravel. Formation au santéportneuf.ca.
Il pleut, c'est pas super beau dehors. Peut-être que ça repousse encore la pratique de votre activité préférée. Bien, c'est super bien parce que ça vous permet de prendre le temps nécessaire pour aller voir les experts chez Piscine Physio. Avec eux, vous allez pouvoir vous assurer d'être prêt physiquement pour l'arrivée du soleil, de la chaleur pour la reprise de vos activités estivales. Parce qu'aller en physio, oui, il y a les histoires de blessures, mais c'est aussi le temps de faire évaluer sa mobilité, sa force, ses capacités à reprendre la course ou encore, dans mon cas, le golf après la saison hivernale. D'ailleurs, on s'est rendu compte que je manquais peut-être un petit peu de souplesse pour mes prochaines drives. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus. En clinique, ils vont prendre le temps de décortiquer avec vous autres tous vos mouvements sportifs pour s'assurer que votre corps soit à son maximum pour votre début de saison. Donc, vous allez repartir avec des exercices, des conseils pour votre retour.
Tu vois, mon amoureux a commencé à aller chez PCN il y a une couple de semaines parce qu'à force d'en entendre parler, je me suis dit, ils doivent faire des miracles. Il y a eu tellement de spécialistes, ça ne change absolument rien. Puis, il est dans un métier où le dos est vraiment sensible. Puis, écoute, ils sont en train de le remettre droit parce qu'ils ont tellement de spécialistes dans différentes branches.
Oui, puis il y a plusieurs petits éléments qui peuvent provoquer une douleur, puis on détricote ça, puis on va vous redonner votre forme. PCN Physio, c'est 15 cliniques dans la grande région de Québec qui sont prêts à vous aider pour que votre printemps commence du bon pied. PCNphysio.com.
Chez La Tulipe,
et il n'y a aucun acompte à verser. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Boulevard.
Si t'as déjà gamé, tu sais comment peser pause puis play. C'est de même que ça marche la web radio de Boulevard au blvd.fm.
Boulevard 102.1. It's in the game.
Chez Tyson, ton destin est entre tes mains. Avec nos biscuits de fortune à craquer, tu as tout à gagner. Cours la chance de remporter l'un des 100 000 prix instantanés et même du Général Tao gratuit toute l'année. Rends-toi chez Tyson ou au craquerpourgagner.ca.
Vos compagnies québécoises chouchou sortent du web l'instant d'un week-end au marché du printemps des Galeries de la Capitale. Rendez-vous dans la cour centrale du 16 au 19 avril pour faire le plein de trouvailles locales. Découvrez la programmation complète du marché du printemps au galerielacapitale.com.
Retour des promos printemps au Club Avantage Multisports. Gym, workout, spinning, tennis, pickleball.
C'est Gravel en retour. Si vous venez de vous joindre à nous, vous vous demandez où est Denis Gravel. Pas trop loin. Il revient demain pour l'instant. Je m'appelle Audrey Pinchot. On est ensemble jusqu'à 18h avec Véronique Bergeron, Antonine Iacarini. Et on s'en va rejoindre un invité à qui on aime bien parler quand il faut jaser géopolitique, quand il faut comprendre ce qui se passe à l'international. Et c'est passé des affaires en Hongrie en fin de semaine. Puis là, je ne ferais pas semblant de savoir où on s'en va de bord en bord, là, parce que Véro m'est arrivé en me disant « Hey, il y a de quoi là, c'est super intéressant. Il y a une montée de la droite en ce moment. Il y a une implication de la jeunesse comme c'est pas possible. »
En fait, en Hongrie, la droite était déjà installée. Depuis 16 ans. Puis il y a des montées ailleurs à travers l'Europe. Puis c'est comme si la Hongrie avait vécu un petit peu dans le futur avec, à sa tête, un président qui était beaucoup plus dans l'autoritarisme qu'autre chose. Puis
Viktor Orbán.
Puis là, la jeunesse s'est soulevée dans les dernières années pour créer un mouvement politique. Puis en tout cas, moi, j'avais le goût qu'Éric nous en parle parce que je trouve qu'il est tellement un bon vulgarisateur. Puis je trouve ça d'intérêt de regarder ce qui s'est passé en Hongrie au moment de l'élection, mais qu'est-ce qui a mené à ça aussi?
Ouais, ça va nous faire respirer un peu, j'ai l'impression, de changer un peu les sujets, exactement. Éric, salut!
Salut Audrey, ça va bien?
Ça va très bien, Éric Sauvé, qui est vétéran, mais qui est consultant surtout en défense et sécurité. Fait que là, on s'en va en Hongrie. Pour vous résumer, comme je vous disais avant la pause tantôt, dimanche, le conservateur pro-européen, il faut le dire, Peter Magyar, a remporté les élections avec une majorité des deux tiers, ce qui lui laisse la possibilité de défaire le système qui est installé depuis 16 ans de pouvoir. Pourquoi c'est important d'en jaser, Éric, hein?
Ben, c'est un bon résumé que tu as fait. Viktor Orbán était là depuis 16 ans. Il est rentré en 2010. Puis pour comprendre pourquoi il est rentré, c'est qu'en 2008, il y a eu une grosse crise financière au niveau mondial. Et Viktor Orbán est arrivé en disant « Je vais régler les problèmes. » Et en même temps, je vais régler les problèmes d'immigration, le fait qu'on ait perdu notre identité, le fait que l'Europe nous contrôle, parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui pensent que le pouvoir est à Bruxelles. Et il a joué sur le nationalisme. Il a réussi à se faire réélire quand même trois fois. Donc, il est passé quatre fois dans les élections. Mais là, cette fois-ci, vraiment été mis à mal, comme tu as mentionné, par la jeunesse, qui est allée voter à 90 % pour des jeunes. C'est comme du jamais vu dans des pays comme ça, surtout des anciens pays de l'ex-Union soviétique où les gens ne croient pas beaucoup à la démocratie, aux élections fair, dans le fond.
Fait que c'est vraiment les jeunes qui ont fait basculer le vote, de ce que je comprends.
C'est que Viktor Orbán contrôle la société depuis longtemps en contrôlant les médias, la justice. Il a fait monter plusieurs compagnies qui sont près de lui, des gens qui sont milliardaires, et réussit à faire passer son message par exemple sur les médias importants, les médias traditionnels. Mais les jeunes se sont organisés sur TikTok, Instagram, sur Reddit, ont passé de l'information qui n'allait pas dans les médias traditionnels dont le message est contrôlé par le gouvernement.
Éric, Viktor Orbán, j'imagine que pendant toutes les années où il a été au pouvoir, il n'est pas du jour au lendemain devenu comme ça. Est-ce qu'il est devenu trop confortable et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a des gens, dont une personne à l'intérieur de son parti qui est parti et qui l'a d'ailleurs battu aux élections en fin de semaine, ont comme fait « Hey, là, ça n'a plus de bon sens, c'est allé trop loin. »
Ben, c'est un peu la tendance des gens qui sont au pouvoir. Hein. On dit que le pouvoir corrompt, puis le pouvoir absolu corrompt de façon absolue. Déjà, Viktor Orbán, c'était quelqu'un de droite qui penchait vers l'extrême droite. Avec un gros mandat en 2010, dès la première année, il a changé la Constitution pour rendre les changements plus difficiles, pour tout mettre en sa faveur. Et puis, ça fait 16 ans qu'il contrôle tout dans le pays. Comme j'ai mentionné, le juridique, les procureurs, les médias. Il y a beaucoup de compagnies. Puis là, si vous voulez, on peut faire un parallèle avec les États-Unis d'aujourd'hui.
Ben, je t'écoute depuis tantôt, puis on dirait que les parallèles se font aisément. D'ailleurs, J.D. Vance était allé l'appuyer quelques jours ou quelques heures avant l'élection. Lui est un pro-Poutine. Il me semble qu'il y a quasiment trop de parallèles à faire.
Bien, il y a des parallèles inquiétants à faire, justement, dans le sens que Trump a mis l'administration à sa main, a mis des loyalistes un peu partout. Et puis, l'effet pervers de ça, c'est que les gens qui sont droits, qui ne sont pas corrompus, eux quittent. Ce qui reste dans les institutions, ben c'est les pro-MAGA, les pro-Trump. Ben, la même chose est arrivée, mais à la puissance 10 en Hongrie. Parce que les gens qui sont restés, c'est des gens qui vivent du régime Orban, c'est des gens qui en ont profité. Mais là, du jour au lendemain, la difficulté de Peter Maguire, tu l'as mentionné, il a travaillé avec Orban pendant plusieurs années. Il était dans son parti. Il a quitté le dénoncé. Mais là, il va faire face à des institutions hostiles qui ont opéré sous le même régime depuis plusieurs années. Et il va devoir remplacer beaucoup de gens. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y a eu une belle victoire impressionnante qui repousse l'extrême droite dans ses derniers retranchements. Mais il y a un gros travail à faire maintenant pour livrer les promesses qu'il a faites durant
la
campagne.
Éric, qu'est-ce qui fait qu'il a gagné avec autant d'avance? C'est vraiment le fait qu'il a dénoncé?
Il y a un gros taux de participation aussi,
division,
je pense.
Ben en fait, les partis aussi de plus progressistes, plus à gauche, ont évité de diviser le vote, si j'ai bien compris.
Pourquoi lui, finalement?
Ben lui, il a dénoncé la corruption avec des exemples précis. Il a montré aux gens, dans le fond, comment que Orban contrôlait un peu comme une marionnette tout le système. Parce que Orban, comme beaucoup des proto-dictateurs que j'appelle, ceux qui penchent vers la dictature, font semblant qu'ils ne contrôlent pas tout dans le pays, mais on sait que c'est eux qui payent les médias, qui payent grassement les compagnies. Maguire, étant du parti, a pu montrer de façon claire les choses qu'ils faisaient. Ils ont même sorti une vidéo où Orban parlait à Poutine, et dans la vidéo, Orban disait « Je suis à votre service ». C'est quand même incroyable que quelqu'un se penche de même devant le dictateur russe et dire je vais faire votre besogne, votre travail. Fait que tout ça, ça a été exposé. Mais les jeunes aussi, il faut comprendre que oui, il y a de l'idéologie, mais il y a aussi le fait que le niveau de vie avait baissé de façon considérable. Je ferai un parallèle avec le Canada où les maisons, c'est plus achetable, c'est difficile de s'installer dans la vie. Les jeunes en avaient aussi assez des choses de base, là, où l'économie est en ruine, le niveau de vie est pas comparable aux pays alentours. Fait qu'eux voyaient qu'est-ce qu'il y avait alentour, puis ils se sont dit, on ne va pas continuer dans la même lignée.
Bien, c'est ça, les jeunes sont vraiment au cœur de ce changement-là. On a l'impression que les jeunes, bon, premièrement, s'impliquent moins en politique, sont moins intéressés, sont moins représentés auprès de la classe politique aussi. Mais finalement, les grands changements sociaux, souvent, arrivent par la jeunesse. Et là, ce changement-là n'aurait pas été possible là, sans la jeunesse.
Écoute, j'enseigne à l'Université de Montréal un cours en criminologie qui s'appelle « Mouvements sociaux, violence et sécurité ». Et un de mes étudiants me dit « Est-ce que vous pensez que ça se peut être apolitique, c'est-à-dire ne pas s'intéresser à la chose politique? » Et ça m'a beaucoup traversé l'esprit. J'ai écrit un article que je pense que c'était Le Devoir il y a quelques semaines là-dessus, disant « Si on est apolitique et on s'intéresse pas, ben c'est comme une autruche qui se met la tête dans le sable. Quand les choses vont bien, quand le gouvernement ne fait pas de vagues, c'est correct de décrocher un peu puis de vivre sa vie. Mais quand un gouvernement est très corrompu, l'économie ne va pas bien, les gens qui se disent « j'ai pas de pouvoir », ben ils ne changent pas les choses. Les jeunes en Hongrie se sont dit « on a un pouvoir, c'est d'aller voter ». C'est ce qu'ils ont fait en masse. Puis ça le fait qu'ils ont complètement renversé le gouvernement, mais je veux dire, il a perdu le deux tiers de ses sièges, Orban. Qui a permis à Maguire d'avoir une majorité du deux tiers, puis lui-même pourrait changer la Constitution s'il le voulait à partir de maintenant.
Moi, ça me fascine que ça ait beaucoup passé par les plateformes de réseaux sociaux, comme tu nous expliquais. Tu sais, des fois, on a l'impression que ça sert strictement à rien, puis que ça nous mène nulle part, là, mais c'est là que tu vois qu'on est capable d'aller rejoindre les jeunes avec ces plateformes-là, puis ils sont capables de décider ce qu'ils veulent pour un futur aussi. Là.
Il y a même une expression par rapport à ça. Nous, dans les mouvements sociaux, on parle de mouvement collectif. Là, maintenant, une expression qui sort, c'est les mouvements connectifs, c'est-à-dire les gens sont connectés. On pense que les jeunes ne sont pas impliqués parce qu'on les voit pas nécessairement dans les rues, dans les manifestations. Mais il y a beaucoup de mouvements sociaux qu'on a étudiés récemment, au Maroc, entre autres, ou dans les printemps arabes, où les gens étaient très connectés. Il se passait beaucoup, beaucoup d'informations que l'État ne peut pas voir parce qu'ils ne sont pas sur ces réseaux-là. Mmh. Fait qu'il y a de l'information qui se passe, comment s'organiser, quoi faire, comment se financer, qui sont les bons opérateurs. Tout ça se passe sur des réseaux que l'État ne peut pas contrôler. Ça a été la difficulté de Orban, puis c'est ça qu'il n'a pas vu venir non plus. Parce que lui, il contrôlait les médias traditionnels, la télé, la presse, mais il ne contrôlait pas les médias sociaux.
Mais ce que je trouve triste, Éric, c'est qu'on dirait qu'il faut que le balancier soit rendu tellement loin pour qu'il y ait des réactions. Tu sais, là, est-ce que le paquebot va être retournable en Hongrie? On ne le sait pas, mais les exemples que tu as donnés, c'est des sociétés qui se sont retrouvées au bout de leur chaîne avant que ces mécanismes-là s'enclenchent. Exactement.
J'aurais pas le choix de faire un parallèle avec les États-Unis.
Je le sais.
Avec ce que vous avez dit, parce que un des prochains articles que je vais écrire, c'est sur le mouvement No King's Day.
Oui, il y a pas beaucoup les grosses de gens manifestations, qui connaissent... là.
Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Mes étudiants n'étaient même pas au courant quand je leur ai parlé. Juste pour montrer comment c'est pas sur le radar des médias. La dernière manifestation, il y avait environ 8 à 9 millions de personnes dans les rues, dans les grandes villes américaines. C'est une des plus grosses jamais vues. Et ça, c'était un dimanche. Mais le lundi matin, tout le monde a pris sa boîte à lunch puis est retourné travailler comme si c'était rien passé. Je veux dire, c'est des coups d'épée dans l'eau, selon moi. Fait que les Américains, ceux qui sont frustrés de la situation, ont beaucoup de difficultés à s'organiser et à faire changer les choses. Même Donald Trump ne fait même pas de tweet sur les non-Kennedy ou presque pas, pour montrer que ça ne l'affecte pas du tout.
Préfère les tweets sur le
pape. Oui, oui. Chacun son truc, hein? En fait, il voulait se présenter comme un médecin qu'il a vu aujourd'hui.
Un docteur de la Croix-Rouge, ben oui.
Docteur de la Croix-Rouge. Il y a toujours une réponse à tout.
Éric, j'ai envie de terminer en te demandant, est-ce qu'on doit apprendre d'une situation comme on a vu passer en fin de semaine en Hongrie? Parce qu'on est les premiers à tout le temps chialer. Ouais. On aime donc bien ça, le gouvernement, il fait de la merde. Mais tu sais, tu vois que quand les gens se mobilisent, souvent ce qu'on pense pas en passant, parce que tu as l'impression que comme seule personne, tu peux rien changer. Mais moi, je trouve que c'est là que tu vois que quand on se mobilise, tu es capable de faire virer le bateau.
Ouais. Le défi de tous les partis politiques, que ce soit municipal, provincial, fédéral, c'est de faire sortir le vote. Puis quand on parle de faire sortir le vote, c'est littéralement amener des gens à aller faire une petite croix dans un isoloir. Et souvent, c'est ça que ça prend pour faire changer les choses. Parce que aux États-Unis, regardez les dernières élections, 65% de participation, ce qui est élevé pour les États-Unis. Mais ça veut quand même dire qu'un électeur sur trois a décidé que lui, sa voix ne comptait pas. Avec des élections aussi importantes que Trump-Harris ou des gros mouvements comme ça, des gens qui se disent, peu importe ce qui se passe à tous les jours que je n'aime pas, je prends même pas le temps, une fois aux quatre ans, de prendre une heure puis d'aller voter. Ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment des gens qui ont décroché du système politique.
Hey Éric, je trouve ça toujours super intéressant. Tu as le don de nous mettre ça simple. Je vais te le dire, là, parce qu'il y a peu de gens qui arrivent ou qui aiment suivre la politique internationale ou ce qui se passe ailleurs parce que ça semble compliqué. Puis tu as le talent, mettons, de nous rendre ça plus simple. Éric Sauvé, qui est vétéran, qui est consultant en défense et sécurité, professeur, il fait tout ce gars-là. C'est pas compliqué. On se rechance bientôt, Éric. L'actualité internationale n'a pas terminé de bouger.
Merci, à la prochaine, Audrey.
Salut, à la prochaine. Bye. Hey, mon Dieu, c'était intéressant. Ouais. Quand tu m'as parlé de ça cette semaine, je me disais, bon, à quel point, mettons, on est capable de faire un calque sur ce qui se passe ici, tu sais.
Puis si, nous, on est tellement habitués, là, t'as les bleus, les rouges, t'as la gauche, la droite, t'as le oui, t'as le non. Là, c'est à l'intérieur d'un même parti qu'il y a une scission. C'est deux partis conservateurs qui l'appliquent différemment, qui se sont retrouvés à s'affronter.
En fait, c'était corrompu. Anti-corruption.
Ouais,
c'est vraiment un axe qu'on... Ben, il y a des gens qui vont nous écrire pour dire qu'il y a de la corruption ici, mais je veux dire, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a connu là-bas. Plusieurs leçons à tirer, puis on en parlait, l'implication de la jeunesse, comment ça peut faire la différence.
Je lisais des articles, une jeune slameuse d'à peu près 15-16 ans qui, elle, s'est fait intimider à l'école, elle a dû changer d'école, un tas d'affaires parce que autour d'elle, il y en avait qui étaient pro-gouvernement ou encore il y avait des parents qui étaient pro-gouvernement, mais c'est ces voix-là qui se sont comme rassemblées, qui ont construit le mouvement. mouvement puis qu'ils ont permis de faire sortir le vote. Hey, le taux de participation était à combien? J'ai-tu vu 78 %?
Oui, c'est très, très élevé. Tu vois, tantôt, je regardais ça, puis on est autour. Attends, je vais te le dire.
79,5 % comme taux de participation.
C'est pas rien, là.
C'est vraiment pas rien. Puis tu voyais les médias qui allaient faire des vox pop, puis tu avais l'impression pourtant que la population allait voter pour la continuité. Mais ceux qui répondaient aux vox pop, c'était des plus vieux. Tout le temps. Puis les autres, tu les entendais pas. Exactement.
Il y avait un mouvement qui était comme une vague de fond. Puis tu le disais, ils se sont rassemblés. Mais c'est les plateformes aussi qui permettent ça. Puis par contre, il va falloir surveiller parce qu'il va y avoir un ressac probablement.
Absolument.
Si on regarde, on faisait plein de comparaisons avec les États-Unis, le mouvement MAGA contrôle très, très bien ces réseaux parallèles. Mm-hmm. Eux, ils sont très connectés. Mm-hmm. Les plateformes, tu sais, évidemment, avec X, qui est contrôlé par Elon Musk,
True Social, avec Donald Trump.
Oui, puis avec tous les podcasters, YouTubers du mouvement MAGA, eux, les médias traditionnels, c'est le contraire. C'est beaucoup plus les médias numériques qui contrôlent.
Puis la Hongrie a un avantage que, mettons, des Américains qui en auraient contre le régime de Trump peuvent pas. La Hongrie fait partie de l'Union européenne. Puis si l'ancien régime était contre l'Union européenne, le nouveau est pour. Fait qu'à ce moment-là, tu as des alliés de proximité qui peuvent t'aider à te rebâtir. Puis il semblait y avoir de l'ouverture à peu près partout en Europe pour aider la Hongrie à se replacer dans le
J'ai hâte de voir, ça va prendre combien d'années?
Moi, je le dis, je suis fascinée. Audrey.
Changer un gouvernement, c'est une chose, ça peut être rapide, mais changer un système, ça peut quand même prendre
après
des
16 ans,
années.
Là, ouais.
Non, c'est quand même fascinant.
Et puis, je suppose une experte de la Hongrie, mais aussi quand je vois des mouvements très forts pour mettre quelqu'un au pouvoir, j'espère toujours que la personne qui sera mise au pouvoir va pas se mettre, elle aussi, à
Exactement.
Abuser de son statut. Ouais.
À l'occasion, fait le larron qu'ils disent. Mm-hmm.
Vous avez envie de réentendre ces entrevues-là qu'on fait de temps en temps avec Éric Sauvé. C'est toujours sur le blvd.fm. Ça va être sorti dans les prochaines minutes. Si vous venez d'arriver, vous avez des questions, des commentaires, 88 971 101 texto. On revient dans quelques minutes. Vous êtes dans Gravel en retour. Pour joindre l'équipe.